15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo, Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, nous allons parler de tous les sujets, sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à l'AVC, une urgence médicale pour laquelle chaque seconde compte, avec notre invité, le professeur Pierre Amarinco, neurologue à l'hôpital Bichat à Paris. Nous ferons notamment le point sur les signes qui doivent alerter. Rappelons que l'AVC, c'est la première cause de handicap acquis chez l'adulte. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler du syndrome du côlon irritable. De quoi s'agit-il et surtout comment le traiter? Ensuite, dans notre chronique Les maux du quotidien, on va parler aujourd'hui de l'ostéoporose, ou quand nos os deviennent plus fragiles à ce passage obligatoire en vieillissant et comment préserver le plus possible votre capital osseux. On vous dira tout. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. On répondra à la question d'une jeune femme qui n'aime pas les mots crus pendant l'amour et qui se demande si elle est vraiment trop prude.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première question, c'est celle d'Émilie, 27 ans.
Oui, bonjour Mélanie et docteur Mohamed. Voilà, j'ai un petit problème, je ne suis pas enceinte, mais je n'ai pas mes règles. Donc est-ce que ça peut être grave? Parce que là, je m'inquiète vraiment. Donc voilà, merci beaucoup.
Ah oui, alors effectivement, Émilie a l'air inquiète. Alors Jimmy, ne pas avoir ses règles en dehors d'une grossesse ou de la ménopause, ça existe, ça s'appelle une aménorrhée, mais est-ce que c'est si fréquent que ça?
Alors oui, ça touche entre 2 et 5% des femmes, et il faut distinguer deux choses, l'aménorrhée primaire, c'est-à-dire les femmes qui n'ont jamais eu leurs règles au moment de l'adolescence.
Donc les jeunes femmes, quoi.
Exactement, les jeunes femmes, de l'aménorrhée secondaire, qui consiste à ne plus avoir ses règles après les avoir eues, en dehors évidemment d'une grossesse, parce que c'est la première cause d'aménorrhée, donc il faut faire un test de grossesse quand on a un doute, en dehors de l'allaitement, parce que l'allaitement bloque aussi le cycle par la sécrétion d'une hormone qu'on appelle la prolactine, et en dehors de la ménopause, qui sont les trois situations physiologiques où on a une aménorrhée secondaire. Toutes les autres, eh ben, il faut faire une petite enquête pour savoir ce qui se passe.
Alors justement, cette jeune femme, elle ne précise pas depuis combien de temps elle n'a pas ses règles, mais au bout de combien de temps, combien de cycles supposés, on va dire, il faut s'inquiéter, éventuellement consulter.
Alors,
du coup.
Ça dépend de deux choses. Ça dépend essentiellement de la contraception qu'on a pu avoir ou pas. Si vous venez d'avoir une contraception, que ce soit par un stérilet ou par une pilule, il est normal qu'il y ait une forme d'inertie du système qui fait qu'on n'a pas de cycle pendant quelques semaines, voire plusieurs mois.
Quand on l'a pris pendant longtemps, pendant des années, par exemple. Exemple, la pilule,
on se met un peu, le système se met un peu au repos et à ce moment-là, on peut considérer qu'on peut attendre 6 mois avant de consulter. En revanche, si vous ne prenez pas de contraception, là, au bout de 2-3 mois, si vous voyez que vous n'avez pas de cycle, il faut consulter. Et attention, le fait d'avoir des cycles très irréguliers est aussi un signe d'aménorrhée secondaire. Ah oui. Ça a la même valeur. Donc, si vous avez des cycles qui durent 45 jours, eh bien, il faut consulter pour savoir ce qui se passe.
Alors, en dehors de ces raisons-là que vous avez décrites post-contraception, on va dire, pourquoi une femme qui n'est pas enceinte n'a pas ses règles? Il y en a d'autres.
Alors, c'est plutôt fréquent chez les sportifs. Alors, ça ne vous concerne pas ni
vous. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, je suis très sportive.
Non, mais
enfin.
Les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau.
Peut-être. Qui
en
sait.
En fait, du ouf, là. Non, pas moi, Mélanie. Les sportifs de haut niveau, du fait d'une insuffisance de tissu gras, ont moins de sécrétion d'œstrogène. Et cet œstrogène absente entraîne cette aménorrhée.
Ouais, non, j'ai du tissu gras, moi, donc c'est bon.
Oui, voilà. Vous voyez, il ne fallait pas me chercher. Hein. Et on estime que l'aménorrhée est 4 à 20 fois plus fréquente parmi les athlètes que dans la population générale. Et puis aussi, des facteurs psychologiques et de stress. Si vous avez un décès dans la famille, une perte d'emploi, une rupture compliquée, là, à ce moment-là, le système peut s'y mettre en veille, mais aussi des causes organiques, des problèmes hormonaux. Donc, si vous avez un problème thyroïdien, un problème de cortisone ou certains traitements, vous pouvez aussi avoir une aménorrhée.
Pour terminer, il n'y a pas aussi quand on perd beaucoup de poids, comme ça, tout d'un coup, on peut ne plus avoir de cycle, justement.
Les femmes qui souffrent d'anorexie ou de boulimie ont des cycles qui s'arrêtent. Et à l'inverse, on a aussi le surpoids, l'obésité qui entraîne une sécrétion excessive de cortisol, entraîne aussi une mise au repos du système qu'on a aussi une aménorrhée. Donc, la dénutrition, la perte de poids entraîne l'aménorrhée, mais aussi le surpoids et l'obésité.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Robin, 36 ans. On l'écoute.
Bonjour docteur, bonjour Mélanie. Écoutez, je bois beaucoup de boissons light et je voulais savoir si c'était réellement diététique ou si, sur le long terme, ça pouvait me poser des problèmes de santé. Merci de votre réponse, au revoir.
Alors Jimmy, effectivement, c'est vrai que dans un souci souvent de préserver sa ligne, ce qui n'est pas mon cas, hein, parce que vous n'arrêtez pas de dire que j'ai des kilos en trop, les accros au soda, ben, ils optent souvent pour les boissons light. Mais est-ce que c'est vraiment mieux finalement pour la santé ?
Non, ce n'est pas mieux pour la santé. C'est vrai que c'est moins calorique, donc forcément moins de sucre, on pense que c'est bien, mais c'est remplacé par plein d'autres choses, du saccharose, du glucose, du fructose, et aussi des édulcorants qui peuvent avoir des effets bien plus graves que le sucre naturel.
Mais alors quel méfait justement, de quel ordre ?
Eh ben, on sait que finalement on peut avoir plus de poids, parce que vous perdez le mécanisme du sucre au niveau du cerveau. Votre cerveau pense qu'il a absorbé le sucre, mais il n'y en a pas.
Il reste
et du
toujours
coup,
accro.
Il reste accro. Et donc, vous avez tout le temps envie de prendre du sucre et vous mangez plus gras et plus forcément plus copieux. Autre étude intéressante, ça concerne 80 000 femmes qui étaient ménopausées, qui ont été suivies pendant 12 ans. Et on s'est rendu compte que la consommation de soda tous les jours, un ou deux sodas, augmentait le soda light, pardon, augmentait le risque d'AVC de plus de 23%. On va en parler tout à l'heure. Donc, évitez les boissons édulcorées. Si vous voulez boire, prenez un vrai jus, mais avec modération.
Et bien sûr, la seule boisson qu'on peut boire à volonté, c'est quoi ? C'est l'eau.
On c'est l'eau, oui.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Robin qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Surtout, n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite avec le docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler du syndrome du côlon irritable. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le professeur Pierre Amarinco, à l'occasion de la Journée mondiale contre l'AVC. On va faire le point sur cette urgence médicale avec lui et notamment sur les signes pas toujours bien connus qui doivent donner l'alerte. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le neurologue Pierre Amarinco, avec qui on fera le point sur la lutte contre les AVC. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez de l'intestin irritable, le côlon irritable. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome ?
Alors le syndrome de l'intestin irritable, c'est également appelé la colopathie fonctionnelle ou le côlon irritable. Alors c'est une vraie maladie digestive. Elle est bénigne, mais plutôt fréquente et souvent négligée, alors qu'elle a un vrai retentissement dans la qualité de vie des gens. Elle n'a absolument rien de psychosomatique, elle n'est pas simplement liée au stress, et ça concerne 5% de la population, donc c'est pas rien.
Ah oui,
c'est 30% des consultations chez le gastro-entérologue, et le diagnostic est souvent porté entre 30 et 40 ans. Globalement, les gens ont des symptômes durant au moins 6 mois, avec une alternance de diarrhée ou de constipation et des douleurs abdominales qui rendent la vie parfois un peu difficile.
Oui, effectivement. Alors, à quoi c'est dû tout ça ?
Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont plus ou moins importants en fonction des personnes. Le premier, c'est un trouble de la motricité au niveau de l'intestin grêle et du côlon, qui est à l'origine soit d'une accélération du transit, soit d'un ralentissement. On a aussi un intestin qui serait un peu trop sensible à son contenu, une hypersensibilité, qui fait qu'on aurait des sensations désagréables ou d'inconfort qui, normalement, ne seraient pas perçues. D'autres choses l'expliquent, notamment le microbiote. Il y aurait
encore
ce fameux microbiote qui fait que, du fait de notre alimentation, on aurait une flore perturbée et qui donnerait des douleurs abdominales. On parle de dysbiose et ce phénomène est évidemment lié à l'alimentation. On a deux autres causes, le fait que l'intestin serait trop poreux et absorberait trop facilement les bactéries et qui entraînerait des micro-inflammations responsables des douleurs. Et enfin, l'anxiété, le stress pourrait être un facteur déclenchant, modulant la maladie avec des périodes de poussée, des périodes de repos.
De toute façon, quand on a mal tout le temps, effectivement, on doit être un peu stressé. Mais s'il n'y en a pas au départ, il y en a ensuite. Hein. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque de développer cette maladie ?
Alors, en France, en Europe et en Amérique du Nord, le syndrome de l'intestin irritable touche 3 femmes pour 1 homme. Il y a plusieurs pistes qui existent, alors qu'on suspecte. Donc, un, ce serait un temps de transit colique qui serait un peu plus lent, un seuil de sensibilité finalement plus bas, ou encore que les femmes seraient un peu plus sensibles lorsqu'elles développent une gastro-entérite, elles seraient susceptibles de développer par la suite ce syndrome de l'intestin irritable. Enfin, on sait que 30 à 40% des hommes ou des femmes qui ont des antécédents d'abus sexuels ont ces troubles fonctionnels intestinaux. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le Collège national de gastro-entérologie. Donc, des facteurs psychologiques évidents dans un contexte d'inflammation et parfois de séquelles de gastro-entérite virale.
On parlera du traitement une autre fois, mais quels examens quand même il faut faire pour confirmer ou pas ce diagnostic ?
Alors, en principe, aucun. Le côlon irritable n'est pas pathologique. Les prises de sang sont normales. Si on doit aller jusqu'à la coloscopie, elle est normale. Les examens sont normaux et on ne retrouve aucune cause particulière. C'est un peu un diagnostic d'élimination.
Donc,
le gastro-entérologue ou le généraliste qui doit poser.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions. Et donc tout de suite nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, c'est le professeur Pierre Amarinco, il est chef du service de neurologie et du centre d'accueil et de traitement de l'attaque cérébrale à l'hôpital Bichat à Paris.
15h-16h,
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Amarenko.
Bonjour.
Alors aujourd'hui c'est la journée mondiale contre l'AVC, donc on fait le point sur cette pathologie avec vous. Hein. Mais d'abord, les AVC, ils font des victimes tous les jours, ça c'est sûr, on le sait en France. Combien environ d'AVC, on va dire, allez, tous les ans en France ?
En France, il y a 150 000 AVC environ, on estime, 150 000 AVC par an. Et un chiffre qui est très intéressant et qui a été publié l'an dernier, c'est celui qu'à l'âge de 25 ans, dans le monde, puisque c'est la journée mondiale de l'AVC, une personne sur quatre aura un AVC dans le reste de sa vie.
Ah oui, à 25 ans, ça fait un peu peur.
En France, c'est une sur cinq. Donc voilà, à 25 ans, une personne sur cinq aura un AVC dans le reste de sa vie. Ça donne un peu l'image de l'importance de l'AVC. Et il faut dire aussi qu'à chacune des décades suivantes, ça reste exactement la même proportion. Un sur cinq aura un AVC dans le reste de sa vie.
Justement, ça touche plus les hommes ou les femmes? Est-ce qu'il y a quand même une tranche d'âge plus particulièrement touchée?
Alors la tranche d'âge plus particulièrement touchée, c'est au-delà de 60 ans. Et comme les femmes vivent plus vieilles que les hommes, elles sont plus concernées au-delà de 80 ans, bien entendu. Mais il y a, on estime, 30 000 AVC qui surviennent chez les sujets de moins de 55 ans, chaque année en France.
Jimmy ?
Et donc, tout à l'heure, on parlait de probabilité de développer un AVC, mais elle est modulée par des facteurs de risque. Et un des facteurs de risque majeurs, c'est l'hypertension artérielle, qu'il faut essayer de bien contrôler.
Absolument, c'est le facteur de risque d'AVC, il multiplie par 8 à 10 le risque d'AVC. C'est pas le seul, le cholestérol, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'intoxication par le tabac et par le cannabis.
Le cannabis, c'est bon ?
Oui, bien sûr, le cannabis
chez les sujets jeunes,
oui, absolument.
Provoque des AVC
par des mécanismes de spasme artériel.
Vous en voyez chaque année ?
Bien sûr, on en voit chaque année. On dose systématiquement le cannabis dans les urines. Lorsqu'un jeune de moins de 55 ans arrive dans le service, il a systématiquement un dosage de cannabis. Oui.
Bon, on va poursuivre cet entretien, professeur Amarenko. Dans un instant, surtout, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc au signe qui doit faire penser qu'un proche ou même un collègue de travail est en train de faire un AVC. Il y a bien sûr la paralysie d'un membre ou d'un côté du visage, ça c'est assez connu, mais il y en a d'autres, on va en parler. En tout cas, leur caractéristique à tous, c'est qu'ils arrivent ces symptômes brutalement, on vous dira tout. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Pierre Amarenko. Il est chef du service de neurologie et du centre d'accueil et de traitement de l'attaque cérébrale à l'hôpital Bichat à Paris. Alors professeur, on a dit qu'on allait parler des signes qui doivent faire penser à un AVC. On y est. D'abord, un AVC, on ne peut pas le confondre avec un infarctus. Hein. Par exemple, on est d'accord, la personne victime, elle ne va pas s'effondrer inconsciente là tout d'un coup dans la rue. C'est pas ça hein, le signe de l'AVC ?
Non, c'est la survenue soudaine de symptômes moteurs, sensitifs, de langage, de la vue.
On va les détailler dans un instant, mais juste rappelez-nous, l'AVC quand même, il y en a deux sortes, hein, deux grands types, on va dire. Celui qui est bouché, en gros, et là où ça saigne, c'est ça ? Expliquez-nous.
Oui, c'est ça, il y a les hémorragies cérébrales. Environ 15% des AVC, et les infarctus cérébraux, c'est-à-dire une artère qui se bouche à cause d'un caillot qui vient obstruer l'artère et donc priver le cerveau d'oxygène, et c'est l'infarctus cérébral.
Jimmy ?
Tout à l'heure, vous parliez justement des symptômes, des signes, vous parliez de signes neurologiques d'apparition brutale et notamment de déficit moteur. On est d'accord que le déficit moteur doit toucher une partie du corps, souvent à gauche ou à droite, une seule moitié et pas les deux en même temps.
Voilà, c'est une moitié du corps qui est concernée par le trouble moteur, c'est-à-dire la paralysie, le membre devient flasque ou inerte, le bras, la jambe, la face, ou les trois ensemble.
Ça peut être que le visage.
Ça peut être aussi que le visage, ou ça peut être que la main, d'où la difficulté parfois d'interpréter les symptômes. Ça peut être un trouble de la sensibilité, un peu comme la sensation que l'on a après une anesthésie chez le dentiste. On a la même chose au niveau d'un bras, d'une jambe, de la face.
La télécommande, vous donnez cet exemple-là parfois ?
Oui, absolument. C'est la personne qui a la télécommande dans la main et boum, elle tombe. Il n'arrive pas à la ramasser. Et ça, ça peut être en effet un symptôme moteur. Lorsque ça touche que la main, évidemment, c'est plus compliqué à diagnostiquer. Il faut se rapprocher du médecin pour l'interprétation, voire appeler le 15, qui est vraiment la référence absolue. Le réflexe absolu pour le patient et pour son entourage, pour les proches qui assistent à l'épisode, car le patient n'est pas toujours conscient de ce qui se passe.
C'est-à-dire qu'il est là, il n'est pas évanoui, mais il peut avoir du mal à réaliser, c'est ça ?
Oui, parce qu'il y a certaines zones du cerveau qui donnent ce qu'on appelle une négligence. Donc le sujet a tendance à négliger le symptôme, alors que l'entourage se constate qu'il y a vraiment quelque chose d'anormal.
Jimmy ?
Et il y a aussi d'autres symptômes qui peuvent nous faire penser à un AVC, notamment des troubles de la vision, qui sont parfois difficiles à interpréter, même pour les médecins. Mais globalement, comment est-ce qu'on peut les reconnaître ?
Alors, c'est la perte de la vue d'un œil. On masque un œil et l'autre, et on voit très bien qu'avec un œil, on voit, et avec l'autre, on ne voit pas. Donc ça, c'est assez frappant. L'autre, c'est que c'est le trouble de la vue d'un côté.
C'est-à-dire on voit d'un œil, on voit visuel, deux yeux, mais
on
pas
voit les
partout.
Deux yeux, mais c'est le côté droit ou le côté gauche qui est touché dans son ensemble. Ça témoigne d'une atteinte de la zone de l'occipital.
Vous parliez du langage aussi. Qu'est-ce qui se passe ? On n'arrive plus à parler du tout ?
Alors, on peut, absolument, il peut y avoir une impossibilité d'exprimer les mots, rien ne sort, ou bien des mots sortent, mais ils sont transformés, sont modifiés, on parle en verlan, ou on inverse des syllabes, on inverse des mots, on dit un mot pour un autre, ou bien le sujet cherche le mot qu'il cherche à dire, mais il n'arrive pas à l'exprimer.
D'accord.
On appelle ça l'aphasie.
D'accord.
Et il y a d'autres symptômes un peu plus rares, mais qui existent, notamment le fait de sentir ivre, de marcher, de tituber. Le trouble de l'équilibre aussi est un signe d'AVC ?
Absolument. Le trouble de l'équilibre, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Mais en matière d'AVC, c'est la soudaineté d'installation qui compte. Une personne marche tout à fait normalement et d'un coup, elle se met à marcher comme une personne ivre.
Elle
doit se rattraper, à tituber, à marcher. Elle doit se rattraper au mur ou à la personne qui l'accompagne. Et donc là, ça doit faire évoquer, en effet, la possibilité d'une attaque cérébrale.
Et on est d'accord qu'à ce moment-là, vous l'avez dit, on appelle le 15 et on ne se rend pas aux urgences, ou peut-être on va attendre des heures et des heures, puisque chaque minute compte.
Exactement, chaque minute compte. Donc le 15, ça doit être le réflexe absolu en cas de suspicion d'AVC.
Est-ce qu'il y a des douleurs ? Est-ce qu'on a mal à la tête, tout simplement ? Parce qu'on se dit, tout ça, ça se passe dans le cerveau. Est-ce qu'on a mal ?
Alors, lorsqu'il s'agit d'un infarctus cérébral... Le mal de tête est peu fréquent. Il est possible, mais il est peu fréquent. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une hémorragie cérébrale, alors là, on peut avoir une céphalée explosive, avec extrêmement brutale, tout à fait inhabituelle par rapport à ce que la personne a pu expérimenter auparavant, car la céphalée, c'est quelque chose d'extrêmement répandu également. Le mal de tête, c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Là, en matière d'AVC,
on voit la différence, si ça arrive. Hein,
on fait la différence, car c'est très, très brutal, très violent. Et là, ça doit faire également évoquer l'attaque cérébrale.
Et tous les signes dont on vient de parler, donc là, on les a à peu près tous listés, je pense, tous ceux qui doivent faire penser à un AVC, ils arrivent tous en même temps ou on peut en avoir qu'un un peu léger
Alors, il peut y en avoir qu'un seul de ceux qu'on a cités, ou bien ils peuvent se combiner.
D'accord, donc tout est possible, mais en tout cas, chacun doit donner l'alerte, le 15. Le 15, rapidement, c'est pour être sûr aussi d'arriver au bon endroit. Hein.
Exactement, le 15 va pouvoir... trouver une unité de prise en charge de l'AVC disponible, avec des lits disponibles, pour pouvoir traiter le patient le plus vite possible, car nous avons 3 heures pour traiter le malade.
On va en parler, professeur Amarenko, vous restez avec nous, on va continuer à parler des risques liés aux AVC.
Europe 1.
Dans un instant, on parlera notamment des traitements à disposition des patients pour leur éviter les séquelles une fois que les premiers signes sont là. Notre invité vient de le dire, on a 3 heures pour agir, 3 heures pour déboucher l'artère ou stopper le saignement. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Pierre Amarenko. Il est chef du service de neurologie et du centre d'accueil et de traitement de l'attaque cérébrale à l'hôpital Bichat à Paris. Alors il y a quelques minutes, professeur, vous nous avez donné tous les signes qui doivent donner l'alerte, finalement, faire penser à un AVC. Face à l'un d'entre eux ou à plusieurs, donc on appelle le 15, c'est le seul réflexe, on nous l'avait expliqué. Parce qu'on a très peu de temps pour agir, vous avez dit, on a moins de 3 heures. C'est ça ?
Absolument, moins de 3 heures. Disons que l'idéal, c'est de traiter les gens dans les 3 heures avec un médicament un peu qu'on peut comparer au desktop qui va déboucher un évier. Hein, voilà, on va déboucher l'artère avec un produit qu'on injecte par voie intraveineuse.
C'est la thrombolyse.
C'est la thrombolyse qui va dissoudre le caillot qui se trouve dans l'artère du cerveau. Et disons qu'on peut étendre ce traitement jusqu'à 4h30.
Oui, après, voilà. Ça marche pas.
Après, c'est pas que ça marche pas. Oui, ça marche pas. Et en plus, ça augmente le risque d'hémorragie de façon trop importante.
Parce qu'expliquez-nous aussi ce qui se passe. Pourquoi on a 3 heures? Parce que chaque minute aussi, il se passe quoi dans le cerveau? On perd quoi?
Eh bien, on perd des neurones. Hein. Chaque minute perdue, c'est 2 millions de neurones en moins. Et donc, on imagine que c'est beaucoup. Donc, il faut, c'est vraiment une course contre la montre. Il faut traiter les gens le plus vite possible. Le mieux, c'est dans l'heure qui suit. Mais disons qu'on a jusqu'à 4h30 à aller pour traiter les gens. Ça marche mieux quand on traite dans les 3 heures. Ensuite, on a un autre traitement qui est le traitement thrombectomie qui permet de capturer le caillot directement en passant par l'intérieur des artères. On attrape le caillot. Au moyen d'un petit grillage auquel se colle le caillot.
Comme
on
un
le
filet
tire,
un peu,
voilà,
disons.
Comme un petit filet, on le tire, on le retire du cerveau, de l'artère du cerveau, et on peut l'enlever comme ça. Et l'artère se recanalise, c'est-à-dire qu'on restitue le flot dans le cerveau de sang, et ce qui permet donc de faire revivre cette zone qui a été privée d'oxygène pendant un certain temps.
On va revenir sur ces traitements dans un instant. Jimmy, peut-être ?
Oui, et que dire aux patients qui ont des symptômes neurologiques mais qui vont régresser en quelques minutes ? On est d'accord qu'il faut absolument consulter et que ça peut être avant-coureur d'autre chose.
C'est exactement la même urgence. Si les symptômes disparaissent en quelques secondes ou quelques minutes, c'est la même urgence.
C'est ce qu'on appelle un AIT.
C'est
quoi,
un accident transitoire, puisque c'est transitoire, que ça ne dure pas. Mais c'est la même urgence car l'intérêt de cet accident, c'est le symptôme d'alerte par excellence. Si on fait les examens complémentaires immédiatement, qu'on traite le patient immédiatement, on réduit de 80% le risque d'avoir le véritable AVC derrière. Il faut le voir un peu comme la fumée du volcan, hein, avant l'explosion volcanique. Donc voilà, il faut réagir tout de suite, même si on retrouve l'intégralité de ses fonctions, lorsqu'on a eu, comme on le disait tout à l'heure, la télécommande qui était tombée, et hop, la main est revenue, on a pu reprendre la télécommande dans la main. Non, il y a eu une paralysie transitoire. Il faut absolument consulter. Car
dans
ça
les 24
peut être...
heures, hein, je crois.
Absolument, il faut consulter dès que possible, le mieux dans les 24 heures. Et ça peut être un rétrécissement sur une artère carotide, ça peut être un caillot qui est dans le cœur et qui peut partir dans la circulation, aller boucher une artère du cerveau. Il faut le découvrir tout de suite. Si on le découvre tout de suite, on diminue le risque considérablement de faire une attaque cérébrale.
Parce que, en général, quand on fait un AIT, un accident ischémique transitoire comme ça, et que donc ça disparaît, les symptômes, on a vraiment de fortes chances d'avoir quoi dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, un vrai AVC ?
Oui, absolument. Le risque, on l'estime à 15%.
Donc c'est pas sûr, mais ça peut quand même fortement arriver.
Ah bah oui, ça peut fortement arriver. C'est très élevé, un risque de 15%. Donc on peut réduire ce risque de 80%, ce qui est énorme en médecine.
Donc là pareil, éventuellement on appelle le 15 ou alors on va aux urgences. Vous dites quand même qu'il faut prendre aussi quelque chose chez soi, un médicament avant d'y aller, hein, pour l'AIT.
Absolument, quand les symptômes ont disparu, on peut prendre 300 mg d'aspirine immédiatement. Ça permet déjà de commencer à traiter et d'éviter l'attaque cérébrale.
Jimmy ?
Tout à l'heure, on a parlé de thrombolyse, thrombectomie. La thrombolyse, vous pouvez nous expliquer comment ça se passe ?
Alors ça, on est dans le cadre où les symptômes continuent, hein, se persistent, ne sont plus transitoires. Là, on a appelé le 15. Le 15 vous a envoyé dans une unité d'AVC. On a fait une IRM cérébrale ou un scanner cérébral pour confirmer l'AVC. Et dès la sortie de l'IRM ou du scanner cérébral, on vous injecte dans une veine du coude. On vous injecte un médicament thrombolytique, c'est-à-dire qui va lyser le caillot. Le desktop en question, qui va dissoudre le caillot. Le problème est qu'il ne dissout le caillot que dans 30% des cas.
Ah, ça ne marche pas à tous les coups quand
ça
même.
Ça ne marche pas à tous les coups, voilà.
Donc, pourquoi ? Parce que le caillot, des fois, il est trop gros, il est trop...
Oui, parce que le caillot est trop gros, dans une artère qui est trop grosse. Et la seule solution que nous avons à ce moment-là, c'est d'aller capturer le caillot, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire de réaliser une thrombectomie.
L'autre technique. Qui n'est pas disponible
encore
partout.
Donc on estime qu'avec un traitement thrombolytique à 3 mois... 40% des gens guérissent de leur AVC. Si on ne leur avait pas donné de traitement thrombolytique, 25% auraient guéri spontanément. Donc 40% qui guérissent. Et si on fait la thrombectomie, eh bien, il y en a 50% qui guérissent.
Oui, on augmente quand même largement.
Ce qui veut dire qu'il y a encore 50% des gens qui ne guérissent pas. Et donc ça veut dire qu'il faut continuer les recherches absolument sur les traitements de l'AVC. Et faire en sorte que les patients arrivent le plus vite possible à l'hôpital, car Nous avions montré en 2009, lorsque on avait publié cette thrombectomie, que lorsque on pouvait recanaliser l'artère dans les 3h30 qui suivent les premiers symptômes, 90% des gens guérissent.
Pas de séquelles.
Pas de séquelles.
Zéro séquelle. On peut se remettre d'un AVC sans séquelles.
Plus vite on arrive à faire la thrombolyse thrombectomie, plus on a de chances de guérir.
Vous faites les deux ensemble, en fait. C'est un combiné, c'est ça?
Oui.
Jimmy?
Et donc, vous avez dit tout à l'heure que la thrombectomie n'est pas disponible partout. Or, elle sauve des vies. Donc, si on voudrait sauver des vies, il faudrait plus de centres où on fait de la thrombolyse et de la thrombectomie.
Bien sûr, il faut absolument que... Mais ça, c'est un problème politique. Il faut absolument que l'on... permettent aux patients qui se trouvent dans des villes où il n'y a pas de centre de thrombectomie d'avoir accès à la thrombectomie. Je pense à des grandes villes, Boulogne, Dieppe.
Là-bas, il n'y en a pas. On ne peut pas avoir de thrombectomie.
Non, il faut transférer dans un centre, dans un des 37 centres français.
Pourquoi? Parce
que
ça coûte cher, il faut former trop de gens. Pourquoi
parce
on est...
D'abord, il faut former des gens, parce que la première chose...
Les neurologues ne savent pas tous le faire.
Les neurologues, la plupart ne savent pas le faire. Pour l'instant, ce sont des neuroradiologues interventionnels qui le font. Il y a 37 centres de neuroradiologie interventionnelle en France et dans les territoires, outre-mer. Donc, c'est pas suffisant, clairement. Il faudrait pouvoir transférer ce savoir-faire des neuroradiologues interventionnels aux cardiologues, aux neurologues, aux radiologues interventionnels, radiologues généraux interventionnels, parce qu'il y a des salles de cathétérisme de partout en France. Dans toutes les villes.
On a le dispositif pour le faire.
On a le dispositif, c'est simplement la volonté politique de le faire.
D'accord. Et donc, ces AVC, donc, vous disiez qu'on peut en guérir, vous avez dit avec la thrombectomie combinée à la thrombolyse, 50% ont zéro séquelle. On peut vraiment se sortir d'un AVC comme si c'était rien passé, sans séquelle, sans rien?
On peut, oui, bien sûr.
Donc c'est plutôt un message d'espoir quand même.
C'est un message d'espoir. Il faut savoir qu'en France, en 2018, il y a eu 7000 patients qui ont eu une thrombectomie sur ces 7000, donc il y en a 3500 qui ont guéri. Mais il y a 150 000 AVC chaque année en France. Donc vous voyez l'ampleur du problème. Voilà. L'AVC peut être guéri, mais il peut être évité surtout.
Alors,
et
comment?
Pour ça, la prévention est absolument essentielle. Il faut que les gens connaissent leurs chiffres. Leurs chiffres de pression artérielle, pour savoir s'ils ont une hypertension ou pas. Leur chiffre de cholestérol, pour savoir s'ils ont une hypercholestérolémie ou pas. Leur chiffre de glycémie, de sucre dans le sang, pour savoir s'ils ont un diabète ou pas. Et puis, il faut qu'ils arrêtent de fumer. Il faut qu'ils fassent du sport. Il ne faut pas qu'ils soient gros.
Tout ça, ça évite l'AVC, tout simplement.
Ce sont des facteurs de risque d'AVC. Si on les contrôle, on évite 80% des AVC.
Ah oui, ça paraît simple comme ça, hein, effectivement.
Oui.
C'est que du bon sens et
des
mesures hygiéno-diététiques.
C'est une pathologie qui se guérit, certes. Mais c'est une sorte de sauvetage, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure, la thrombolyse, la thrombectomie, c'est vraiment le sauvetage lorsque la catastrophe est arrivée. Et ce n'est pas garanti de succès, puisqu'il n'y en a que 50% qui guérissent. Par contre, on peut éviter l'AVC avec le traitement des AIT et avec le traitement des facteurs de risque.
Jimmy ?
Et les patients pensent souvent qu'on traite un AVC dans un service de neurologie classique, or on fait ça dans des services spécialisés, les UINV, donc les unités neurovasculaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça diffère d'un service de neurologie classique ?
Eh bien, il y a toute une équipe, parce que ce n'est pas que les médecins qui interviennent là-dedans. Les médecins sont très importants, mais c'est les infirmières, les aides-soignantes, les kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes, psychologues, psychomotriciens. Tous ces gens-là sont absolument nécessaires autour du malade pour la récupération. Pourquoi l'orthophoniste, par exemple? Une des complications de l'AVC, c'est la pneumonie d'inhalation, c'est-à-dire que le sujet avale dans ses bronches, comme on dit communément, d'accord ? Donc ça s'infecte, parce que tout ce qui est dans la bouche, c'est sale.
Ben oui.
Donc ça s'infecte, et ça, c'est une complication majeure de l'AVC. 30% des gens mouraient de ça auparavant.
Maintenant,
désormais, dans une unité neurovasculaire, on n'alimente pas le patient tant que l'orthophoniste n'a pas examiné le patient et dit si on peut l'alimenter ou pas. Et lorsqu'on peut l'alimenter, le réalimenter, elle dit s'il faut l'alimenter avec tel ou tel aliment, liquide, semi-liquide.
Ça, c'est indispensable. Ça évite des complications énormes. Oui.
Et avec ça, on fait tomber les risques d'infection pulmonaire à moins de 5%.
Oui.
Donc, le tout fait que la bonne prise en charge de l'AVC, parce que je pourrais citer bien d'autres exemples que, celui-là, la bonne prise en charge de l'AVC fait diminuer de 30% la mortalité dans une unité neurovasculaire, comparativement à une prise en charge dans un service de neurologie ou d'un autre service de l'hôpital, et permet à 60% de patients en plus de retourner à domicile, sains et saufs, si je veux dire.
Alors pour terminer, je crois que vous venez de créer une fondation qui s'appelle Vaincre l'AVC. C'est quoi le but de cette fondation ?
À la fondation Vaincre l'AVC est en gestation actuellement. Le site internet n'est même pas encore prêt, mais l'objectif de cette fondation, c'est justement de diminuer le nombre d'AVC de 80% d'ici 2030.
Grâce à tout ce que vous avez dit là.
Permettant le dépistage des sujets à risque et favoriser la prise en charge de l'AVC en France, mais aussi à l'étranger. Et donc, au sein de la Fondation, on crée AVC sans frontières, qui va permettre de développer des unités neurovasculaires, justement, dans les pays d'Afrique qui n'en ont pas, qui sont complètement dépourvus et qu'il faut absolument aider.
On vous souhaite beaucoup de succès dans cette fondation. Merci beaucoup, professeur Amarenko, d'être venu sur notre plateau. On a ça aussi plus grâce à vous sur l'AVC et sur sa prise en charge. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à l'ostéoporose, ou quand nos os deviennent plus fragiles en vieillissant. Est-ce un passage obligé en prenant de l'âge? Cela touche-t-il plus les hommes ou les femmes? On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle d'ostéoporose, cette maladie de l'os qui le rend plus fragile. Savez-vous comment cela fonctionne et vers quel âge ces fragilités apparaissent? Justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
L'ostéoporose, j'en sais rien. Et... c'est un truc de vieux, ça, je pense.
C'est comme ostéo, donc c'est un truc avec les articulations, je pense.
Les os du corps qui se fragilisent.
Les os qui s'abîment, peut-être, je sais pas, avec le temps.
Ça doit être un truc génétique, j'imagine. À mon avis, c'est un truc qu'on peut avoir à n'importe quel âge, même bébé.
Soit t'as une espèce de fragilité... il s'effrite. Je pense qu'il y a des facteurs, si on est toujours assis avec une souris, ça peut faire mal aux articulations, ou mal assis, ou il y a des facteurs comme ça qui accélèrent, je pense, ce phénomène.
Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? On leur dit de manger plus, enfin, de boire du calcium.
Pour soulager, c'est un ostéo.
Je pense que pour ces personnes, il faut leur donner du lait pour fortifier les os, même si je pense que ça doit pas être suffisant.
Alors Jimmy, on va faire le point sur l'ostéoporose. Les auditeurs qu'on vient d'entendre, enfin les personnes interrogées par Benjamin en tout cas, avaient l'air d'avoir quelques connaissances. D'abord, c'est quoi vraiment? Est-ce que c'est vraiment une maladie?
Oui, c'est une maladie osseuse qui associe une diminution de la densité osseuse et des modifications de sa micro-architecture. Et cette densité qui est plus basse fait qu'on risque de se fracturer des os, et des os à un site particulier, le col du fémur,
oui,
le poignet et les vertèbres. Et donc c'est une maladie qui est plutôt fréquente et qui augmente avec l'âge. Plus on est vieux, plus on a un risque d'avoir de l'ostéoporose, et ça touche de façon inégale les hommes et les femmes, mais évidemment avec un rôle prépondérant des hormones et donc de la femme.
Mais pourquoi on souffre de cette maladie qui rend donc les os plus fragiles? Je croyais que l'os, ça s'auto-réparait finalement, puisque
oui,
quand on a une fracture, on guérit. Quoi.
Enfin... exactement, il y a un phénomène qu'on appelle de remodelage, qui fait que l'ancien tissu osseux malade ou abîmé est remplacé par un nouveau, mais ce phénomène de remodelage diminue après 45-50 ans et sous l'effet d'hormones, marche moins bien, qui fait qu'on a plus de résorption que de sécrétion de nouvelles trames osseuses. Et à ce moment-là, on a ces fractures. Et donc, on a deux causes qui peuvent expliquer ça. J'en ai parlé tout à l'heure. Les hormones, notamment les œstrogènes. À un moment de la ménopause, on a moins d'œstrogènes. Donc
toutes
on a
les hormones sexuelles, hein, finalement. Chez l'homme aussi, l'androgène. Les androgènes, il y en a moins.
Après 50 ans, on a 15% des hommes qui souffrent d'ostéoporose. Alors, c'est plus chez la femme. Et puis, la vitamine D, le fait de manquer de vitamine D, peut entraîner cette fragilité osseuse à risque d'ostéoporose. Et attention, l'ostéoporose n'est pas une maladie douloureuse. Ce qui est douloureux, c'est la fracture qui va être générée secondairement.
Mais il y en a beaucoup des fractures comme ça. Les gens sont hospitalisés pour ça. Et en France, enfin, vraiment, c'est fréquent.
Oui, c'est très fréquent. C'est environ 180 000 personnes par an de plus de 50 ans. Alors, deux tiers ont plus de 70 ans. Et elles ont été hospitalisées soit pour une fracture du col du fémur, soit une fracture vertébrale ou du poignet. Et attention, la fracture du col du fémur entraîne un risque de mortalité dans les années qui suivent, parce qu'on perd de l'autonomie.
Et oui,
donc, prévenir une ostéoporose pourrait prévenir la mortalité.
Très, très rapidement, parce qu'on n'a plus le temps, Jimmy, est-ce qu'il y a quand même des médicaments pour la traiter ?
Oui, il y a la famille qu'on appelle des bisphosphonates. C'est des médicaments qui permettent de ralentir la perte osseuse. Alors le problème de ces traitements, c'est qu'ils ont des effets secondaires, donc on essaie de les donner un peu moins et pas trop longtemps. Et enfin, on peut supplémenter en vitamine D et en calcium pour rendre l'os un peu plus solide.
Bon, on fera une émission spéciale sur l'ostéoporose parce que c'est passionnant, il y a encore beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h. Et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler des mots crus, de ceux que certains emploient parfois pendant les rapports sexuels pour augmenter leur excitation, mais que d'autres n'aiment pas particulièrement. D'abord, un peu de musique, on écoute Together Again de Janet Jackson. C'était le titre sorti en 97, Together Again de Janet Jackson.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de Angèle. Alors je vous la lis, hein. Je suis en couple depuis 3 mois, mon partenaire emploie des mots crus à mon intention en me faisant l'amour. Je ne sais pas très bien qu'en penser, je ne trouve pas que ce soit source d'excitation, cela me fait même m'interroger quant à son regard sur moi, serais-je trop prude comme il le prétend. Alors Catherine, Angèle, elle est en couple depuis peu apparemment, elle nous écrit que ça fait 3 mois, et apparemment elle a un peu de mal avec les mots crus de son partenaire. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Est-ce qu'elle doit lui en parler déjà par exemple ?
Alors, débat, bien sûr, si ça lui convient pas, je crois que la moindre des choses, c'est dire que ça ne me convient pas.
J'ai piqué votre question, Jimmy. C'est toujours vous, le est-ce qu'il faut en parler ? Bah, c'est moi.
Je vais m'ennuyer un peu plus, très bien. Je vois où vous voulez en venir. Merci.
Alors, oui, excusez-moi, Catherine, pardon.
Oui, donc, effectivement, je crois que de toute façon, ce n'est pas sur ce sujet précisément, sur tout sujet de la sexualité. Dès lors que ça ne nous convient pas, que ça nous gêne, la question n'est pas de savoir si on est prude ou pas, c'est notre limite. Même si un jour on la fera bouger, notre limite est à respecter.
Donc, à ce moment-là.
Bien sûr. Donc, si ça ne lui convient pas, il faut pouvoir dire « Écoute, je ne comprends pas du tout pourquoi tu emploies ces mots-là. Ça ne va pas. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ça veut dire quoi ?» Si elle ne se sent pas bien avec ces mots, évidemment.
Jimmy ?
Et ces mots, se parler cru, bah, de toute façon, ça n'excite pas tout le monde. Tout le monde n'a pas envie d'avoir ce genre de relation et ne trouve pas de plaisir à entendre ça.
Oui, d'où le fait qu'il n'y a pas de normalité.
Encore une fois.
Et voilà. Et parce qu'effectivement, d'abord, il faut comprendre d'où ils viennent. Ils viennent... pour la plupart, malheureusement, de plaquage d'une idée que l'on se fait de la sexualité au travers de la pornographie, et que du coup on s'approprie l'idée que ça serait fun, que ça serait excitant, parce qu'un film le dit, et un film qui est extrêmement réducteur, donc ça c'est une chose. Et puis une autre chose, c'est que ça peut être aussi assez non intentionnel, mais assez fulgurant, parce que dans la sexualité, c'est une histoire de pulsion. De pulsion avec dedans une sorte de force, voire d'agressivité, qui n'est pas l'intention de son partenaire à qui l'on voudrait du mal. C'est tout d'un coup quelque chose, ce sont nos contradictions, nos envies, nos désirs, nos peurs, notre agressivité qui s'exprime à ce moment-là et qui nous fait poser des mots qui n'auraient pas lieu d'être dès lors qu'on sort du cadre de la sexualité.
Deux questions, Jimmy.
Mais du coup, quand vous dites ça, on a l'impression que ce serait pas normal d'avoir ce genre de comportement. Ce que vous dites, ça relève d'un de fantasmes qu'on a entendu dans les films pornographiques ou d'une forme d'agressivité qu'on aurait.
Mais ça fait pas très positif.
Finalement, c'est pas très positif dans une relation intime.
Amoureuse, tendre. Mais il y a toujours de l'agressivité dans la sexualité parce que vous imaginez bien que pour pouvoir se posséder l'un l'autre, s'envahir l'un l'autre, se prendre l'un
ça
l'autre.
Ça peut être une légère agressivité, on n'est pas forcément dans la violence, voilà, quoi, c'est ça.
Oui, c'est pas un combat de rue.
Non,
mais oui,
non, on n'est pas là-dedans.
Juste
bien,
qu'il faut,
évidemment.
Quoi.
Voilà, c'est-à-dire que nous sommes porteurs d'agressivité, ce dont je parle, c'est ce dont nous sommes porteurs au quotidien, d'une certaine dose d'agressivité, d'un certain désir de posséder l'autre, et donc d'un besoin aussi de justifier l'envie de posséder l'autre, et une certaine dite maltraitance par le verbe de l'autre donne la possibilité de s'autoriser. C'est une histoire purement psychique. Il n'y a pas une volonté consciente, sauf ceux effectivement qui ont cru que le mode d'emploi, c'était de traiter l'un l'une d'un mot ou d'un autre. En général, c'est souvent les messieurs qui traitent...
On ne va pas dire quel mot, mais on a tous imaginé. Oui. Est-ce que ça ne vient pas aussi, c'est pas quelque chose, les mots crus comme ça, qui vient un petit peu aussi avec le temps. Là, elle dit que ça fait 3 mois qu'elle est avec son compagnon. Peut-être qu'elle y viendra, peut-être qu'elle en aura envie un jour aussi d'entendre ces mots-là. C'est possible ?
Peut-être, mais encore une fois, non pas parce qu'elle se sera habituée, elle se sera appropriée sa façon de lui parler, mais parce que ça racontera des choses pour elle. Encore une fois, si la relation est de qualité, si elle est pleine de tendresse et de bienveillance, ces mots sont des mots qui deviennent rigolos parce que il se démarque justement d'une relation qui, de toute façon, a installé un cadre de sécurité et de confiance. C'est quand une relation est maltraitante, ou quand quand je dis maltraitante, même psychologiquement, simplement, que ces mots-là sont l'insulte suprême, puisque c'est encore dans cette intimité que cela s'exprime. Et là, c'est une malveillance, vraiment.
Jimmy ?
Et là, il lui reproche d'être trop prude. Est-ce qu'on peut arriver aux mêmes conclusions que lui ?
Oui, on peut, c'est-à-dire de penser que l'autre est réellement prude parce qu'il n'a...
Angèle dit que son mari la trouve trop prude, enfin son compagnon de 3 mois. Là,
oui, bah, il peut la trouver trop prude du point de vue, mais encore une fois, peut-être d'un cliché qui est le sien. Parce que la réalité, c'est qu'elle l'est peut-être. Et alors, pourquoi peut-on ne pas être prude dans sa sexualité ? Bien sûr, au contraire, c'est charmant. C'est charmant de bousculer quelqu'un qui l'est un peu, de lever le voile de cette pudeur excessive. Et puis c'est charmant pour celui qui l'est de tout d'un coup découvrir qu'il n'y a pas de risque de l'autre côté de la pudeur.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier du jour, on prépare le mois sans tabac. Et oui, novembre approche à grands pas. Et j'espère que vous êtes nombreux, les fumeurs, à vouloir vous lancer dans ce challenge de groupe. En tout cas, moi c'est sûr, je vais me lancer. Cette fois, j'espère que je vais réussir. Ce sera ma 5e tentative d'arrêt du tabac. Alors si vous êtes tenté comme moi, surtout, on vous donne rendez-vous demain. On fera le point sur toutes les méthodes d'aide à l'arrêt qui ont prouvé leur efficacité. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, vous restez avec nous. L'équipée sauvage arrive avec un invité passionnant aujourd'hui. Vous pensiez que les débats sur MeToo, sur le véganisme étaient des débats extrêmement contemporains ? Pas du tout, ça remonte à l'Antiquité. Christophe Onodibio publie La Minute Antique, un livre dans lequel il revient sur ce que les Romains et les Grecs ont à nous apprendre de notre actualité.
Je vous souhaite une bonne émission Mathieu, merci beaucoup, surtout restez sur Europe 1.